I know how it sounds.
La sexploratrice. Avec Mel Trudel.
La sexploratrice.
Radio X.
Hey, hey! Bonsoir, chers auditeurs, auditrices. Bonsoir, mon cher collègue Max.
En chair et en audio. En direct de la Los Capitalos. Comment ça va?
Yes, sir. Ça va très bien. Je suis en direct, moi, de Montréal. Comme ça a été le cas toute la semaine. On a la chance de pouvoir animer en direct de Montréal et de Québec. Et chers auditeurs, ce soir, vous êtes dans l'émission, dans la 26e émission de La Sexploratrice. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir la chance d'animer ce show-là parce que c'est un show, mais comme je dis, j'explore la sexualité. C'est une émission qui fait en sorte que j'ai accès à des experts, j'ai des invités de tous les milieux avec qui je peux aborder toutes sortes de sujets en lien avec la sexualité, les relations, parce que je suis ni psychologue, ni experte ou coach relationnel. Hein. Moi, j'explore, donc c'est de là que vient le nom « La Sexploratrice ». Et ce soir, eh bien, on a avec nous deux invités. Et la première, en fait, est une invitée qui est quasiment habituée. On t'avait de l'engager. Il s'agit, en fait, de sa quatrième apparition sur nos ondes, sur les ondes de Choix Radio X. Et c'est, on a avec nous Sonia Van Satcher et Marco Le Roulant.
Bonsoir
à vous deux. Donc, on va expliquer aux auditeurs qui sont ces deux magnifiques personnes. On a Sonia Van Satcher qui est travailleuse du sexe, mais aussi spécialisée en assistance sexuelle pour les personnes en situation de handicap. Et Marco est une personne qui a une relation particulière avec Sonia. Et c'est de ça dont on va parler ce soir. Bonsoir. Yes.
Bonsoir.
Sonia?
Je veux dire premièrement qu'il n'y a personne qui l'explique mieux que toi ce que je fais.
C'est vrai?
Tu dis mon nom parfaitement, puis tu l'expliques exactement comme je le fais. T'es vraiment une bonne interviewer. Je
veux dire ça avant tout.
C'est le fun à chaque fois. C'est exactement ça.
On a du plaisir à chaque fois, puis là, on a une heure, imagine. Oui. On a toujours manqué de temps quand on t'a eu sur nos ondes.
Tout le temps, on a tellement de choses à dire, puis on s'aime d'amour. Fait que c'est tough de rentrer dans notre temps d'habitude.
Vraiment. Bien, si tu peux expliquer un peu aux auditeurs qu'est-ce que tu fais exactement pour que ce soit clair et... C'est oreille sensible, s'abstenir, OK? Il faut être ouvert d'esprit, mais en même temps, je pense qu'on est rendu là dans la société, là, de pouvoir parler de tout ça et surtout de faire en sorte que ce soit de moins en moins tabou, en fait.
Oui, on est vraiment rendu là parce que je vois vraiment à quel point que mon message dans les dernières années véhicule vraiment bien. Les gens sont prêts pour ça. Le fait qu'on me donne des micros aussi souvent prouve que les gens veulent l'entendre, là. Dans la société qu'on est en ce moment au Québec, en tout cas.
Veulent et sont prêts.
Oui, sont prêts, exactement. Oui. Fait que je suis témoin de tellement de belles ouvertures d'esprit tout le temps par rapport à ce que je fais. Ce que je fais, en fait, tu me dis de le dire exactement, mais moi, j'ai de la misère à le dire parce que j'ai comme un petit peu créé ma branche. Je suis travailleuse du sexe, donc je touche à tout ce qui a rapport avec le travail du sexe, que ce soit en ligne, sur les réseaux sociaux, sur OnlyFans, bien sûr, mais aussi la partie qui est vraiment la base de mon travail, c'est le travail du sexe en personne, donc escorte, et aussi l'assistance sexuelle pour les personnes en situation de handicap. C'est une niche dans laquelle je me suis spécialisée par la force du temps, finalement.
Parce qu'il y avait un besoin de ce côté-là. On a tendance à penser que les personnes en situation de handicap parfois sont asexuelles ou qui n'ont pas de besoin de ce côté-là, alors que ça fait partie des besoins essentiels chez l'humain que de recevoir de l'affection, de la sexualité, de pouvoir s'épanouir de ce côté-là. Donc, j'ai découvert, en fait, votre relation à toi et Marco grâce au podcast Entre elle et lui.
Oui.
Excellent podcast, mesdames et messieurs. Vous devez à tout prix écouter ce podcast-là. Tous les épisodes sont bons, mais le vôtre particulièrement est extrêmement touchant. Donc, Marco, si tu peux peut-être te présenter à nos auditeurs.
Oui, moi, c'est Marco, j'ai 25 ans. Puis mon prototype, dans le fond, vu que vous n'avez pas de visuel, je suis en situation d'handicap. Je me déplace en fauteuil roulant. J'ai la paralysie cérébrale. C'est une condition qui est stable, que j'ai depuis la naissance, mais techniquement, c'est pas ça que j'ai eu à la naissance, mais c'est une limitation fonctionnelle majeure là, au niveau physique.
C'est ça, contrairement à ce qui arrive, en fait, la paralysie cérébrale, souvent, ça se développe, c'est le fœtus finalement qui naît avec cette condition-là. Dans ton cas, c'est quelque chose qui s'est développé à cause d'une varicelle que tu m'expliquais?
Oui, c'est ça, c'est une varicelle. Dans le fond, je suis né normalement comme un enfant normal. Puis j'ai contracté la varicelle à des temps vraiment infantiles, 3 semaines de vie. C'est tôt pour avoir la varicelle. Fait que je suis sorti de l'hôpital, j'ai eu une petite fièvre assez intense que ça a créé une ébullition du cerveau, convulsion cérébrale, crise d'épilepsie, tout le kit qui fait des dommages au niveau neuronal. Fait que ça fait des dégâts, ça.
Ça fait des dégâts. Ouais. Par contre, moi, ce qui me fascine de toi, c'est que tu t'es pas apitoyé sur ton sort. T'es une personne qui me semble fonceuse. Je te connais pas beaucoup, là, mais de ce que je connais
je te
toi.
Oui, oui, je te connais assez pour pouvoir te le dire.
C'est ça. Ouais. T'es un être exceptionnel, là, vraiment. T'es fonceur. T'es bien établi dans la vie aussi.
Oui, oui. Dans le fond, je pense que j'attribue beaucoup de ça au fait que j'ai grandi dans un environnement où est-ce que c'était propice à ça. J'ai des gens autour de moi qui sont pas d'emblée dans l'apitoiement, qui sont pas dans la victimisation. Puis pour ça, ça m'a grandement influé à aller vers le même chemin. Pour moi, sérieusement, c'est une philosophie de vie. Il faut foncer dans la vie pour avoir qu'est-ce qu'on veut.
Puis à partir de quel âge est-ce que tu as senti ta différence?
Écoute, j'étais à un camp de jour à 7 ans. Un camp de jour pour des gens en situation de handicap. Puis avant ça, tu sais, j'ai grandi vraiment avec des conditions normales, tout ça et tout. Là. J'allais à l'école en cheminement régulier, tout ça. Mais c'est vraiment en allant dans ce camp-là avec des gens en situation de handicap que j'étais exposé à la différence, puis ça m'a un peu traumatisé parce que, écoute, je pouvais pas ou difficilement communiquer avec les autres personnes de mon âge qui étaient souvent non-verbales, qui avaient aussi mêlé à ça des gens avec des déficiences mentales. Fait que pour moi, c'était difficile de composer avec ça, puis de comprendre avec ma tête de petit gars de 7 ans, là. Puis quand je suis ressorti de là, j'ai fait « Je veux pas être une personne en situation de handicap. »
Fait que j'ai été longtemps... Parce que jusque-là, tu le sentais pas.
Non.
Wow.
Puis j'ai vu un peu l'image du fauteuil, puis je voulais pas m'associer à ça.
Et Marco,
fait que j'ai été longtemps dans le déni.
Je trouve ça fascinant de t'entendre ce soir et surtout impressionnant parce que malgré la problématique qui exacerbe ton quotidien, tu t'exprimes vraiment bien, tu as un bon vocabulaire.
Ah, tellement.
Et outre ça, comment la paralysie cérébrale, elle affecte ton quotidien?
Ben écoute, faut comprendre dans mon pronostic que je suis pas techniquement paralysé. Je sens tout de mon corps, le courant passe partout. C'est de la manière que mon cerveau communique aux muscles les instructions que j'essaie de lui instruire. Ça va avoir un peu des glitches dans le signal qui va me créer des stimuli comme des spasmes, par exemple, qui sont localisés vraiment plus de mon côté droit que de mon côté gauche. Puis aussi, ma capacité de me tenir en équilibre debout est très limitée. Donc, c'est pour ça que je me déplace en fauteuil roulant. Puis, c'est pour ça que c'est majeur au niveau fonctionnel dans la vie quotidienne.
Donc, t'as continuellement besoin de quelqu'un pour t'épauler dans les tâches de la vie de tous les jours.
Toujours.
C'est ça. Mais avec le conditionnement physique, puis tout ça, j'ai participé à des plans d'intervention pour vraiment améliorer ma propre autonomie fonctionnelle. J'ai pu en gagner. Puis encore à ce jour, je sais pas sont où les limites du physique. Je continue à regarder ça avec mes physio-ergos, tout ça. Fait que je lâche pas à ce niveau-là. Mais c'est sûr que j'ai des limites que je peux pas dénier.
Puis on va parler de l'arrivée de l'adolescence, la puberté, les envies.
Ouais.
Hein? Les envies sexuelles, inévitablement, on va en parler. Comment ça s'est passé, cette période-là? Et comment t'as vécu ça, là, en fait?
Ben un peu comme j'ai dit au podcast, quand j'étais à l'adolescence, tout ça, moi, j'ai tout le temps été facile d'approche. J'ai tout le temps été avenant, puis le fait de tout le temps dénier ma situation de handicap, ça fait que je voulais être le cool guy, je voulais pas réfléchir à l'image du gars qui est qui est dans la victimisation, puis qui est dans l'apitoiement. Puis je m'impliquais à plein de choses à ce niveau-là. Je voulais pas être le gars laissé sur le côté, tout ça. Fait que j'ai tout le temps été vraiment bien accueilli dans l'écosystème de l'école secondaire et tout ça. Là.
OK. Puis est-ce qu'il y avait quand même des jeunes filles qui pouvaient, disons, s'intéresser à toi un petit peu, ou de ce côté-là, c'était...
Ça a été un peu difficile, c'est-à-dire, ouais. Déjà en partant, je veux dire, les signaux, s'il y en avait, je les captais pas. Mais je les ai pas sentis non plus. J'ai l'impression que j'étais le cool guy. Mais pas
friend
plus.
Friendzoné, c'est sûr. Très friendzoné. Il devait se faire friendzoné tout le temps. Ouais.
Friendzoné, ça, c'est un terrain connu.
Ouais.
Que j'ai l'habitude.
Que t'aimerais moins connaître.
Puis au niveau de ta sexualité, t'as quand même, t'as un côté de ton corps qui fonctionne et tout ça. T'es pas asexuel.
Non, pas du tout.
Tout fonctionne très bien.
Tout fonctionne.
Bon, on va en venir au sujet principal. C'est là qu'on en vient. Donc, t'as eu l'idée, comment t'es venue l'idée, en fait, de faire appel au service d'une assistante sexuelle?
Bien, écoute, ça, je veux dire, l'idée... d'avoir des expériences au niveau sexuel, je veux dire, de parler à l'adolescence, les pulsions arrivent, tout ça, puis oui. Au fur et à mesure que ton entourage a des expériences et tout, puis toi, tu deviens un peu complexé par le fait que t'as pas d'occasion pour justement avoir ces expériences-là, puis c'est pas nécessairement à cause des traits caractériels. Je pense que je suis quelqu'un d'assez d'avenant puis tout ça pour le faire, mais je pense que c'est ça, j'étais pas dans les dispositions fonctionnelles pour le faire. Admettons, à l'université, j'habitais pas sur le campus ou environnant, j'habitais chez ma mère. Fait que c'est... Tu vas pas avoir mon intimité à partant, c'est difficile de te prêter à des expériences comme ça, puis aller chez les filles quand 95% des maisons y ont des marches.
Mm-hmm.
Ça prend toute une logistique. Puis j'ai parlé un peu dans le podcast des non-dits, mais tu sais, j'ai aussi l'impression que les gens y associent le fauteuil à ça va être compliqué, ou peut-être c'est moi, mais c'est l'impression que j'ai eue à cette époque-là.
L'inconnu de la logistique de
l'inconnu.
Ça.
Fait que c'est mieux dans ce temps-là, quand il y a trop d'inconnus, de pas l'aborder, selon moi.
Mm-hmm. Okay.
Puis, dans le non-dit, c'est ça, ça devient très prenant, puis tu fais des tourments dans ta tête et tout ça.
Fait avec raison, tu sais.
Ouais.
Puis
là, je vais te répondre à la question de comment je suis venu. Mais écoute.
Comment t'es venu, ouais. Ça... dans tous les sens.
Non, ça s'explique de ça.
Ouais, c'est ça. Mais comment je suis venu à l'idée?
Comment t'en es venu?
Comment t'en es venu à contacter
Sonia? Pourquoi Sonia? En fait, on est tous attirés par Sonia.
On est tous attirés par Sonia.
Merci de l'avoir avoué.
Non, mais... Aïe, bon, très présente sur les
réseaux. Ben, l'idée de faire affaire avec une travailleuse du sexe, j'étais pas étranger à ça depuis l'âge de mes 18 ans, mais tu sais, je veux dire, à 18 ans, c'est du monde de mon entourage qui me le suggérait, mais encore là, j'étais pas assez loin dans mon cheminement, dans l'acceptation. Puis dans la tête d'un gars de 18, t'associes des fois la chose du travail du sexe différemment par le manque de maturité, tout ça. Tu dis, ben non, je suis capable de me payer des filles, tout ça.
Mm-hmm.
Puis de vraiment avoir un cheminement un peu plus régulier.
Ouais.
Puis là, le temps passe, puis tout ça. Puis là, j'arrive à 24 ans, puis je fais, ouais, il faudrait que j'y pense, là. Fait que...
Mais t'avais jamais eu de relation avant?
Non.
J'ai jamais eu de relation,
j'ai jamais eu une date. J'ai jamais eu une date.
Moi, je veux qu'on te matche.
Oui, exact. Ben, c'est ça qu'on a essayé de faire sur le podcast. On a même envoyé tout le monde qui slide dans ses DM. On était quand même. Les lignes sont ouvertes, là.
Écrivez-nous. La sexploratrice en commercial, radiox.com. On veut matcher Marco.
Oh, oui.
Marco qui habite dans le secteur de l'Estrie.
Dans le secteur de l'Estrie, à 30 minutes de Sherbrooke.
Bon, puis Marco, il n'y a pas de problème à se déplacer à Montréal, là, c'est faux. Oui. Malgré que... Ouais, Mathieu, pas sûr.
Et il est approuvé, Sonia.
Mais avant de te rendre, à 24 ans, Marco, puis d'avoir l'illumination de vouloir l'essayer avec une femme, toi, dans ta vie personnelle, comment ça se passait dans tes moments de solitude? Est-ce que tu avais essayé quelque chose? Est-ce que tu étais capable d'avoir des moments de masturbation, si on peut appeler ça comme ça?
Ouais, la masturbation, je suis assez familier avec l'expérience.
Je sais pas comment tu t'exprimes.
Je suis capable de faire ça. La pornographie, tout ça, c'est quelque chose que je faisais couramment depuis, en fait, l'âge 15-16 ans. Tu sais, à peu près vers
comme
cet âge-là.
Ouais,
donc, tu n'avais pas peur de pas être assez suffisant pour une femme?
Ben.
Écoute, ouais.
Ben, non, mais même que je pense que au contraire, t'étais en situation très, très sûre de toi là, la première fois que ça s'est passé.
Ben, dans l'état d'esprit, oui.
Ah.
Au niveau du physique, tout ça, c'est sûr, c'est un terrain inconnu qui m'insécurisait un petit peu, mais je veux dire, dans la vibe, dans le mood, je veux dire, je me transposais, puis dans le fond, quand les intentions sont claires, du moment, je veux dire, j'ai communiqué avec Sonia, les intentions étaient claires en partant, le setting était clair.
Fait là, ça te donne la confiance pour passer à l'acte.
Exactement.
C'est sécurisant dans un setting, excusez-moi de l'anglicisme,
oui.
Comme ça, de, tu sais, un environnement contrôlé.
Oui, le contexte est parfait.
On sait ce qui va se passer.
Voilà.
Il m'a déjà vu dans une entrevue ou quoi que ce soit, fait qu'il y a une idée à quoi s'attendre comme personne. T'sais.
C'est ça, parce qu'on va se le dire, tu es très présente sur les réseaux sociaux, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure.
Je suis moi-même beaucoup aussi, fait quand on me rencontre, quand on me book, c'est la même personne que quand je suis dans une entrevue ou quand je fais plein de niaiseries sur Instagram, c'est la même personne.
Fait on a envie de devenir ton amie, t'es attrayante.
Oui, puis je suis tellement à âme ouverte que on dirait que ça sécurise beaucoup les gens qui, d'habitude, c'est pas le cas de Marco, là, je parle en général, qui sont un petit peu plus asociales ou plus gênées en public ou qui sont sur le spectre de l'autisme, par exemple. Ça aussi, c'est une grosse partie de ma clientèle parce que je suis tellement une personne à l'aise avec tout ce qui est mon être et avec ma sexualité, avec mon travail, qu'on dirait que ça l'aide vraiment les gens à venir, surtout pour une expérience aussi importante qu'une première fois. Il faut se dire, c'est pas rien que quelqu'un te confie ça. C'est un incroyable cadeau que je prends pas pour acquis, tu sais.
Mais tellement.
Ouais.
Puis c'est à la limite déconcertant, genre tu te demandes avant de la rencontrer, c'est-tu vrai, ça?
Puis, c'est
beau. Sincèrement, wow, c'est... Non, pour vrai, c'est ça, je peux le valider. Sonia en entrevue, puis Sonia en personne, dans l'intimité, c'est la même personne.
C'est la même personne.
Ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire.
Mais c'est la réalité. J'ai eu la chance aussi, là, ça fait 4 fois. Là,
c'est ça, puis on s'est vu en dehors. C'est juste l'authenticité, je pense qu'il n'y a pas une particularité de caractère que quelqu'un devrait plus aspirer à. C'est tellement important là, d'être soi-même dans un monde qui ne l'est pas. Là.
Mais oui, exactement. Puis, mais là, toi, Sonia, j'imagine que tu ne prends pas... tous les appels, tu
n'as
pas le choix de filtrer là, parce que tu es
ben
en demande, on va se le dire.
Ben oui.
Donc, comment est-ce que tu arrives à dire, OK, oui pour lui, elle ou lui, non, parce que tu as des femmes aussi, on va se le dire.
Oui,
il y a des femmes qui te contactent également.
Ben, mes clientes aujourd'hui, c'était des femmes.
Oui,
aujourd'hui,
c'est ça, tu avais deux femmes qui t'ont contacté.
Un couple de femmes, oui.
Bon, elle a failli en avoir tort à cause d'eux autres.
Oui! Salut les filles, écoute en ce moment.
C'est pas vrai. Mais oui, c'est ça. Donc, comment c'est fait? Toi, tu as contacté Sonia de quelle façon?
Oui, donc, c'est ça, dans le fond, je l'ai entendu par un ami qui m'a envoyé son profil, puis j'ai pris connaissance un petit peu de sa notoriété, puis dans quoi qu'elle avait embarqué au niveau des podcasts, puis tout ça. Je l'ai écouté à Sexe Oral, puis après 15 minutes, j'ai fait non, faut que je rencontre cette fille-là.
J'ai fait non, pas elle.
Mais là, toi,
Ça, pour répondre à la question, c'est par courriel, dans le fond.
Oui,
que...
c'est comme ça.
Tu as émis ta demande, c'est comme ça que tu fonctionnes.
Ouais, c'est bien indiqué sur ton site web.
Oui, c'est sûr que moi, ma préférence, c'est les clients qui ont déjà vu des travailleurs du sexe. C'est sûr que dans le cas d'une personne en situation de handicap, c'est plus rare qu'ils ont les références que je demande. Donc, deux références d'une travailleuse du sexe que tu as vue. Qui a une réputation, je veux dire, qui est réputable et qui peut me prouver que t'es une bonne personne, que t'es poli, que t'es respectueux, que t'es hygiénique, tu sais, tout ça.
Ouais.
Fait que c'est vraiment comment je fonctionne en dehors de ma clientèle en situation de handicap.
Par faux feeling, j'imagine aussi.
Au feeling, j'ai l'expérience m'a appris que c'est pas une bonne idée de faire ça. C'est très, très rare que je fais ça. Puis c'est pour ça que ta question, je l'ai pas évité, mais un peu. La question, tu m'as posée avant parce qu'on me l'a jamais posée. Puis l'affaire, c'est qu'il y a toujours l'enjeu de sécurité dans mon travail.
Oui.
Donc, je veux pas donner les outils aux gens pour savoir comment passer par-dessus mon processus de sélection. Parce qu'il est vraiment en tête, oui, je suis vraiment en demande. Donc, j'ai le privilège dans ma carrière de pouvoir vraiment choisir ma clientèle. Okay. C'est sûr que, tu sais, direct, Marco, son approche en partant, très ouverte et très, tu sais, oui, il écrit super bien ou whatever, t'as pas besoin de pas faire d'efforts de français pour être accepté à ma clientèle, c'est pas ça que je veux dire. Mais juste avoir l'air vrai, poli, être ouvert à mon processus, parce que j'ai une liste d'attente, la majorité du temps, j'ai une liste d'attente, être capable de répondre à tous les critères, ben pas les critères, mais toutes les étapes que j'ai avant de me rencontrer. Ça fait vraiment une grosse différence dans le gut de rencontrer quelqu'un, dans le gut feeling que t'as. Puis Marco, il a passé with flying colors, comme on dit, là. C'est ça.
Ouais, c'est ça. Quand j'ai rédigé mon courriel, je veux dire, j'ai lancé ça dans le ciel. Je me suis pas fait d'attente en sachant que, tu sais, le screening, un process de tournure était assez rigoureux, fait que j'ai fait d'avienne que pour eux, mais je vais être vrai dans mon courriel.
C'est ça qu'on a senti. Avant même de le rencontrer, j'avais hâte de le rencontrer. C'est quand tu sens que tu vas bien t'entendre avec quelqu'un, tu le sais.
Mais vous avez vraiment une belle chimie.
Hein. Oui, je l'avais senti
avant. On s'est vu avant, je l'ai senti en arrivant, c'est hallucinant.
Je l'aime d'amour. C'est fou comment on peut développer quelque chose de fort avec des gens qui font affaire avec tes services.
On va en parler tout de suite au retour de la pause.
Ah oui,
ouais, vraiment, c'est déjà la pause, mais juste avant, on a un beau concours. Oh. En fait, c'est le film Gran Turismo qui met en vedette Orlando Bloom et David Harbour qui arrive au cinéma demain. Donc, grâce à Radio X, vous pourriez voir le film en grande première le jeudi 24 août à 18h45 au cinéma Le Clap. Vous avez qu'à texter la sexploratrice au 88-670-9098 et on va sélectionner deux personnes pour remettre deux paires de billets.
Entendu dans l'épisode précédent de la sexploratrice.
J'ai quelqu'un d'extraordinaire à te présenter. C'est une boss lady, une libertine assumée, une amie et partenaire d'affaires aussi, je tiens à le préciser. On a avec nous Madame André, qui est propriétaire, copropriétaire en fait, du magnifique Club L. Moi, j'ai pas mis deux minutes la première fois que j'ai vu une orgie. J'avais jamais vu ça de ma vie.
Il y avait combien de personnes
Il y avait 7 personnes. Tu vois, cette fois-là, j'étais avec ma copine puis on s'est assis. Au bout de la salle de conférence, là, Mathéo est venu nous jaser, tu sais, puis on jasait. Puis là, maintenant, moi, j'écoutais plus du tout la conversation, puis c'est là que j'ai découvert que j'étais un peu voyeuse, parce que je l'étais pas tant, comme quand je raconte l'histoire de l'orgie, ou, tu sais, chaque fois que je suis allée au club, j'étais pas tant à l'aise de regarder les gens faire, je restais plus en bas, ou, tu sais, je participais pas vraiment, tout ça. Puis là, maintenant, Mathéo, il parlait, puis j'écoutais même plus, je regardais ce qui se passait, puis là,
Mais quand tu dis que t'avais une conversation avec Mathéo, c'était devant l'orgie? Tu jasais avec quelqu'un comme si rien n'était devant une orgie?
Ouais!
Sûrement pas trop fort.
Mais non, on était extrêmement discrets, là. Mais là, il y avait ma copine So à côté, elle qui était vraiment excitée, mais tu sais, elle a regardé du coin de l'œil, puis elle jasait, puis tout ça. Mais tu sais, je veux dire, on jasait proche, là.
Réécoutez cette émission sur le site radiox.com, section La Sexploratrice.
La Sexploratrice.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel.
Radio X.
Hey, hey, de retour avec La Sexploratrice et Max Lacasse.
En chair et en audio.
Yes, sir. Donc, de retour à nos deux invités exceptionnels qui sont avec nous ce soir, Sonia Van Sacher et Marco Leroulant, qui nous parlent de leur relation particulière. Sonia étant assistante sexuelle auprès des personnes en situation de handicap et handicap lourd, finalement. Oui. Et Marco, qui est avec nous, qui contacte Sonia à l'occasion, finalement.
Je suis l'handicapé, dans le fond. Là,
non, c'est ça! Il est handicapé dans mon titre professionnel, c'est lui, ça.
Voilà. Je trouve ça incroyable de voir qu'ici, au Canada, c'est pas quelque chose qui est légal en soi, finalement, alors que, tu sais, aux Pays-Bas, ben, ça a été un des premiers pays, là, dans les années 80 à légaliser
80,
tout ça.
80, wow! Ouais, c'était si vieux que ça.
Oui, l'assistance sexuelle, c'est au début des années 80 que le système prostitutionnel, le système prostitutionnel hollandais était déjà très permissif. Puis au Danemark, la Belgique, en Suisse, tu sais, il y a différents pays déjà où il y a une belle ouverture de ce côté-là.
Ouais.
Puis ça devrait être ça ici.
Ben c'est pas parfait leur système, tu sais
non plus
le,
effectivement ça fonctionne. Peut mener.
On veut pas ça, on veut pas que ça soit comme les Pays-Bas.
C'est ça qui est intéressant.
Il y a pas une seule travailleuse du sexe qui est d'accord avec leur modèle. C'est mieux que aux États-Unis où c'est criminel de faire mon travail par exemple, mais leur modèle est pas le modèle idéal du tout.
Qu'est-ce que ce serait le modèle idéal pour toi?
Le modèle idéal, c'est qu'on nous assise à la table de décision. Le gouvernement consulte les travailleuses du sexe pour mettre en place des lois qui tourneraient vraiment plus vers la décriminalisation totale que la légalisation ou quoi que ce soit comme ça. Les pays où c'est légalisé, comme aux Pays-Bas, comme en Australie, à la table de décision, il n'y en avait pas de personnes qui font ce travail-là. Donc, ils ont fait leur loi d'une façon politique. Et ça protège pas du tout la travailleuse. Tu sais, on se dit, oh, on va légaliser ça, il va y avoir vraiment moins d'exploitation sexuelle, par exemple. Parce qu'on revient toujours à cet argument-là. C'est pas vrai. Et aujourd'hui, étant donné qu'il y a tellement de pays où c'est légalisé, il y a des pays où c'est décriminalisé, on le sait aujourd'hui que l'exploitation sexuelle, les données disent qu'il y en a pas moins dans les pays où c'est légalisé. Au contraire, on les met en dessous de la table, on les aide pas plus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas ça le modèle qu'il faut avoir. Il faut nous écouter puis qu'on le fasse ensemble, ça.
Puis toi, Sonia, t'es une travailleuse du sexe qui est peinturée mur à mur sur les réseaux sociaux. Est-ce que t'as déjà eu des embûches judiciaires à cause, justement, que t'étais un peu trop partout?
Mais oh, t'es pas criminelle, toi?
Non, c'est ça. C'est pour ça que je peux me permettre de montrer le visage partout. Je suis fiscalement et légalement clean cut, tu sais. Oui. Tout ce que je fais est légal. Il n'y a rien dans tout ce que je fais qui n'est pas légal. Je connais la loi exactement. Je sais où la marge est et je ne la franchis pas. Par exemple, si je me faisais de la pub en donnant des cartes d'affaires ou quoi que ce soit. Ça, c'est bizarrement dans la loi, c'est illégal. Si je profitais des fruits de la prostitution de quelqu'un d'autre, par exemple, je les aide dans leur prostitution, ça sonne bizarre, mais dans leur travail du sexe, et je fais de l'argent avec ça, ça aussi c'est illégal. Il y a plein de façons que ça peut l'être. Ma plateforme en ligne, de Loveable, qui est un répertoire où les travailleurs du sexe peuvent s'afficher en tant que disability friendly. Donc
comment est-ce que tu l'écris? De Loveable?
TheLoveable.ca.
Ouais.
Donc, c'est The en anglais, TheLoveable.ca. Mais en fait, je le mets partout, ces réseaux sociaux.
Vous pouvez suivre Sonia Von Sacher.
Oui.
Parce que les gens, là, parfois, ils ne savent pas trop là, comment écrire ton nom.
Et tout ça, je les comprends. Tu veux que je l'appelle? Oh, mon Dieu, s'il vous plaît. Prenez des beaux crayons. Sonia, comme on se l'imagine. Sonia, mon Instagram, tout part de mon Instagram. Fait que Sonia.von.sacher. Fait que c'est ça, voilà. Mais je suis vraiment dure à trouver sur Instagram parce qu'Instagram, même pas beaucoup. Je dis plein de niaiseries. Fait que mon compte est comme...
T'es shadow ban hein?
comme on dit. Oui, c'est ça. Instagram me cache des utilisateurs. Mais j'ai quand même un gros compte Instagram. Puis je suis très, très active dessus. Je fais beaucoup d'éducation. Je monte beaucoup de photos cool aussi. Oui. Mais je fais beaucoup d'éducation, de sensibilisation par rapport à cette cause-là, justement. Parce que la loi, en ce moment, au Québec, au Canada, est tellement hypocrite. Et on est toutes contre la façon que c'est géré au niveau législatif en ce moment. Il faut qu'il y ait un changement à ce niveau-là. Oui, pour les travailleurs du sexe, travailleuses du sexe, qui font affaire avec des clients pas en situation de handicap, mais encore plus avec ça, parce que ça, c'est une niche de la clientèle qu'on pense beaucoup moins, hein, qu'on oublie qu'il existe. Puis changer la loi, ça va aider tout le monde, aussi les clients en situation de handicap, qui n'ont pas vraiment d'autre choix que faire affaire avec des services comme ça pour pouvoir vivre une sexualité épanouie. Donc, ça va les aider aussi à pouvoir le faire dans une vulnérabilité minimale. C'est vraiment ça qu'on essaie de faire, mettre tout le monde en sécurité, au-dessus de la table, arrêter de nous mettre dans un côté dark, de ruelle, de background. C'est pas là qu'on est. On est là, on est forte, on est capable d'en parler. Marco est là pour prouver sa partie ça. Moi aussi, on est tanné que ça soit quelque chose de underground. On veut en parler pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne que c'est vraiment plus normal puis vraiment plus commun que ce qui existe. Puis on est là, puis on s'en ira pas, tu sais. Ça va continuer.
Même que c'est...
Peu importe ce qu'on fait.
Comme on disait tout à l'heure, c'est souvent les membres de la famille qui vont parfois apporter l'idée, qui vont...
Oui, peut-être un client sur trois, peut-être plus même, que c'est sa famille qui fait affaire avec moi. C'est avec eux que je corresponds, c'est eux qui paient, c'est eux qui m'accueillent, c'est eux qui font tout, là. C'est vraiment comme...
Puis au niveau technique, OK, on va se le dire, lorsque vous vous voyez, c'est... dans le secteur de la grande région de Montréal?
Oui, au centre-ville, j'ai un loyer pour ça.
OK,
c'est sûr que la clientèle qui ne peut pas se déplacer, qui est sur l'île de Montréal, je peux faire une exception, mais d'habitude, c'est toujours dans mes lieux qui sont accessibles en fauteuil roulant, bien
sûr. Effectivement, mais oui.
J'aime mieux ça quand c'est chez moi, mais je comprends totalement qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus à mobilité réduite, qui ne peuvent pas se déplacer au lit, etc. Donc, je m'accommode.
Puis, il y a des hôtels, je pense, qui sont adaptés, parce que c'est pas tous les hôtels qui peuvent recevoir des personnes en situation de handicap.
C'est
là.
Très rare.
Des lèvres-personnes, des trucs comme ça, c'est pas partout.
Les lèvres-personnes, c'est presque impossible. La seule fois que j'ai essayé de booker une chambre pour Alain, finalement.
Oui, notre ami Alain Godet, qu'on connaît.
Oui, qui, s'il vient dormir à Montréal, a absolument besoin de lèvres-personnes, deux employés, tu sais, c'est beaucoup de jobs. Donc, j'ai fait le tour des hôtels à Montréal, j'en ai trouvé un qui pouvait accueillir le lift personnel en dessous du lit, puis il fallait péter le lit. Il a fallu qu'on brise les lattes pour que ça puisse passer en dessous du lit. Donc, c'est très rare.
Aïe, aïe.
En termes d'accessibilité universelle, au Québec, on est hyper arriéré.
Tellement. Préhistorique comparé à d'autres places.
Quand je vais, mettons, aux États-Unis en voyage, tout ça, je sais pas si c'est le bassin de population qui est plus importante, le respect des vétérans aussi aux États-Unis. Sont beaucoup plus accommodants au niveau des accessibilités puis tout ça, ben je pense pas, puis je veux pas critiquer la population pour ça là. Je pense juste c'est de l'ignorance, que les gens dans qui connaissent pas puis qui ont pas matière à connaître. C'est ça, c'est quoi la réalité en vivant dans une situation d'handicap?
C'est comme si on vous mettait de côté complètement.
Ouais.
C'est tellement triste, ça n'a pas de bon sens.
Mais ça prend des voix fortes, puis il veut encourager ces voix-là de sortir. Parce que on en a tellement de besoin. Mm-hmm. On en a tellement besoin, ces voix-là. Tout le monde a des bonnes intentions de pouvoir aider, mais il faut travailler ensemble.
Oui. Heureusement, il y a des organismes extraordinaires qui sont là pour vous aider à vous épanouir. Et ça a été le cas. Je t'ai vu faire du sidou. Non, attends un peu.
Du
skinotique.
C'était fou.
Marco, c'était hallucinant. Tes vidéos, je te regardais, je suis comme, mais voyons donc, c'est ton vin hot.
C'est un jackass.
Oui, peux-tu nous parler un peu de cet organisme-là? Qu'est-ce que c'est? Ça vous fait faire plein d'activités vraiment hot. Là.
Ben, c'est la Fondation des sports adaptés. Que je fais partie intégrante en titre de participant depuis maintenant environ 6 ans.
Presque ambassadeur.
on peut dire ça. Mais j'ai essayé tout avec eux autres, le ski nautique, le kayak, le ski alpin l'hiver. Au Mont-Azet, c'était incroyable. Puis l'inclusion dans le sport, c'est tellement great pour vrai.
Ben oui, vraiment. Ouais.
Votre histoire à tous les deux, elle est extrêmement fascinante et même je la trouve très enrichissante sur le plan humain. Mais toi, Sonia, comment t'en es venue à te spécialiser dans cette clientèle-là en situation de handicap ou en situation de déficience intellectuelle?
Ben, on dirait que c'était par la force des choses. J'étais déjà travailleuse du sexe. J'avais un ami qui était en situation de handicap. J'étais sa bénévole pendant longtemps. Donc, j'ai appris toutes les spécificités de comment m'occuper d'une personne en situation de handicap. Tout le monde pense que, j'ai un membre de ma famille très proche qui est en chaise roulante toute ma vie. Non, j'ai pas du tout été familière à ça, quand j'ai grandi, finalement. C'était vraiment à l'âge adulte. Oui, tu veux dire quelque chose?
Ben, c'est parce que, initialement, toi, tu sais, ce que je trouve le fun avec toi, c'est que, c'est toujours les commentaires qu'on a, c'est « Elle sait bien s'exprimer, elle est donc intelligente, cette femme-là. Ouais. » Toi, t'as un bac, là.
Oui.
Tu sais, t'es allée, t'as fait des études.
Je suis qualifiée dans un métier que je pourrais travailler.
Voilà, c'est un choix de vie que t'as fait.
Puis ça aussi, ça rentre pas dans la tête du monde.
Non,
les gens
je
sont
sais.
Pas capables de comprendre que c'est un choix que j'ai fait à l'âge adulte et que c'est ma carrière. Ça,
c'est ta mission de vie, quasiment. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose qui te fascine, qui te passionne.
Ça fait rire les gens que je puisse faire une carrière en prostitution.
Puis quand est-ce que t'as eu ce déclic-là?
Pour la prostitution?
Oui.
J'étais étudiante. J'étais déjà une personne très ouverte sexuellement qui voyait aucun tabou à ça. Donc, j'ai décidé que ça allait être ma job étudiante. Donc, j'ai commencé à travailler comme ça. Je ne pensais pas aimer ça à ce point-là. J'ai vraiment eu la piqûre de ce travail-là. Finalement, j'ai fini mes études et j'ai juste continué dans cette voie-là parce que c'était vraiment la passion que j'avais à ce moment-là. Mais au début, c'était juste une très bonne job étudiante, finalement. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, j'ai vraiment été sensibilisée à la réalité sexuelle des personnes en situation de handicap. J'ai entendu des histoires horribles à gauche, à droite. Donc, j'ai décidé de me spécialiser là-dedans, de donner une grosse réduction sur mon tarif à ces personnes-là. parce que j'ai vu le besoin. Ensuite, j'ai commencé à faire des entrevues et là, je me suis rendu compte que le besoin était vraiment au-delà de moi. Là. C'est plus grand que moi. Là. Donc, je me suis rendu compte à quel point qu'il faut que ça change pour que ces personnes-là aient recours à des services comme ça dans la dignité et la sécurité. Parce que c'est pas toujours le cas, surtout en région.
Mais non, effectivement. Puis les gens ont tendance à croire que ça coûte, en fait, que tu charges plus cher
pour
les personnes en situation de handicap, alors que c'est l'inverse.
Oui, c'est ça. Oui, au contraire, tu sais, une personne en situation de handicap n'aura pas toujours les moyens de faire un salaire d'une personne qui n'est pas en situation de handicap.
Et comment tu détermines si la personne est en situation de handicap? Est-ce que tu demandes un papier du
médecin? Non, mais j'ai des clients en situation de handicap que je suis comme, toi, tu n'avais pas besoin de mon rabais. Mm-hmm. Mais je ne peux pas y donner le rabais, mais il y a des gens qui ont pas mal, ils ont une bonne pension, mettons. Donc, il n'y avait pas besoin de ce rabais-là. Mais la majorité du temps, je me rends compte que c'est vraiment nécessaire pour ces personnes. Le rabais que je donne, ils ne pourraient pas faire affaire avec mes services, ils resteraient dans leur détresse sexuelle, faute d'argent, finalement.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. Puis je voyais qu'il y a même des pays où il y a une allocation.
Ça serait dans le meilleur des mondes. Là. Puis je pense que Marco est d'accord avec moi. Là. Je pense que ça devrait vraiment être comme ça.
Oh oui.
Ouais. La RAMQ devrait rembourser une partie de ça. Ouais. C'est un soin de santé. C'est un soin de santé parce que moi, j'ai tellement de preuves autour de moi que je sauve de l'argent à la RAMQ. J'ai des clients qui n'ont même pas besoin de prendre toute leur médication depuis qu'ils me voient régulièrement. Ça change vraiment leur quotidien. Il y a des médications que leur famille n'a même plus besoin de leur donner. Ils sont vraiment plus calmes. Les spasmes arrêtent après que j'ai été les voir. Il y a vraiment une grosse différence au niveau de leur santé qui est concrète, que je suis témoin. Donc, personne ne peut me dire que je ne fais pas une différence dans la vie des gens. C'est une thérapie. Souvent pour ces gens-là.
C'est ça, à même titre que d'aller voir un psychologue,
oui.
D'aller voir...
Une
massothérapeute, l'ergo.
Oui.
L'ergo
Mais c'est
en... toutes les nommer. Là,
ils
les
sont toutes payées par la RAMQ.
C'est en Hollande qu'il y a des prestations sexuelles depuis 82.
Ça, c'est
depuis
incroyable.
1982, en Hollande, en fait, on a des... ils proposent des prestations sexuelles pour les relations alternatives.
Wow, tu viens de m'apprendre ça. J'en viens pas,
c'est
je savais
fou,
pas
là.
Ça.
Tu sais, on est vraiment arriérés. Là.
Oh, tellement!
Ça n'a pas de sens. Mais est-ce que tu as peur peut-être éventuellement de t'attacher ou est-ce que tu arrives quand même à bien faire la part des choses? Tu sais que, bon, lorsque vous vous voyez, c'est dans ce but-là. Vous avez vraiment une belle chimie. Là.
Mais oui, on est amis avant tout.
C'est ça.
On se parle.
Vous êtes devenus amis.
Oui, exactement. Exactement, parce que ça a cliqué au bout.
Ouais, ouais. Ouais. En effet, c'est ça, on peut penser, c'est ça, avec notre chimie, tout ça, j'ai-tu matière à être amoureux? C'est sûr que les émotions, c'est impulsif, on les contrôle pas, on les subit. Mais je cherche pas non plus à nourrir cette émotion-là pour que ça devienne un sentiment. Je prends souvent un peu de recul pour, justement, je t'expose sur Nia tous les jours.
Non, mais c'est même moi qui est
T'es pas fatigante.
Mais il est très respectueux de mon temps, donc il va. Des fois, je suis sûre qu'il est comme « Ah, j'aimerais ça lui dire ça », puis il le dit pas. Mais quand, tu sais, clairement, quand je le texte, il me répond, là.
mais c'est ça, j'attends ton signal, parce que
oui,
c'est sûr que...
Respectueux au bout,
puis c'est aussi une manière de protéger mon intégrité émotionnelle que j'ai envers ta personne.
Wow, c'est beau ça.
Ouais.
Ouais. Oh, puis, tu sais, un peu pour répondre à ta question, moi, j'ai vraiment l'impression que je le prépare à sa future relation, tu sais. Que je suis pas en train de le mêler ou quoi que ce soit. Au contraire, je suis en train de lui donner peut-être une connaissance, une confiance que ça va vraiment aider quand il va rencontrer une fille, tu sais. Ouais. Il va plus avoir la pression de l'inconnu.
Exact.
Je sais pas si je te mets des mots dans la bouche, là. Reprends-moi si.
Non, c'est ça un peu. Je veux dire, je fais la part des choses. Je veux dire, je veux rester. Ton ami, puis je pense qu'on va avoir une relation qui va perdurer dans le temps, vraiment sincère, vraiment nice à entretenir, mais c'est ça, il y a cet aspect-là, il y a l'aspect aussi de l'intimité, mais j'ai appris aussi avec le temps, puis j'ai entendu beaucoup parler de ça, mais on se fait tout le temps inculquer que vivre en couple, c'est... C'est vraiment...
La formule magique.
La formule, tout ça. Moi, j'ai tout le temps été un lover d'emblée, tout ça. Puis c'est aussi une chose qui est venue me complexer quand j'étais ado, jeune adulte. Mais avec le temps, puis ce que j'ai appris avec Sonia, c'est qu'on peut nourrir ce sentiment de plénitude-là en entretenant des relations qui sont sincères.
Oui.
Avec des amis, avec... Sonia avec whatever, whoever.
Mais en tant que... moi, je me considère comme solo poly, là, tu sais. Mm-hmm. Puis je peux avoir des amis... des personnes avec qui j'entretiens une relation particulière sans que ce soit nécessairement mon amoureux au quotidien ou quoi que ce soit, mais ou des amis de corps qu'on appelle, tu sais.
Oui, ça, c'est beau.
C'est carrément ça, là, en quelque sorte, là, si on veut, tu sais.
C'est ça, fait que j'ai plus l'empressement de me mettre en couple, j'ai encore...
À tout prix.
À tout prix, exactement. Oui. Ça viendra quand ça viendra. Puis, comme je dis souvent, je vais avec le flow, puis tant que j'entretiens des relations qui sont vraiment sincères en me respectant, c'est ça.
Ça t'apporte du bien-être.
Oui, oui.
C'est ça l'important, dans le fond, en quelque sorte. Ouais. Puis, comment est-ce que tu envisages l'avenir? En fait, là, présentement, tu habites avec ta mère.
Oui.
Puis, est-ce que
tu es une personne incroyable?
Es-tu ouvert en... Oui? Oh, j'aimerais essayer de parler.
Ah oui, je suis sûre. Mais... elle aime ça parler aux mamans.
Oui, j'aime ça parler aux mamans. C'est ce que je lui disais. Donc, en fait, j'ai tenté d'avoir une petite entrevue avec ta maman, mais elle était trop gênée.
Elle était trop gênée.
Je comprends, écoute. Je comprends. C'est pas de leur... Nous, on est sur des réseaux sociaux.
Oui, elle n'a pas naturel du tout. Non, non, même pour faire partie d'une de mes stories sur Instagram, ça là-dessus. Si en plus, je donne un texte, elle a l'air...
Exact.
Non, elle l'a pas tout.
Mais c'est un amour, là, pour avoir la chance de la rencontrer. Oui. Là, vraiment, c'est une perle. Ta maman, à toi, Marco, je ne l'ai pas rencontrée, mais...
Oui, oui, c'est une perle aussi. C'est une personne incroyable. C'est sûr, en vivant ma réalité tous les jours, puis en cohabitant tout ça, dans l'intimité, tout ça... Je veux dire, elle a écouté le podcast, puis ça l'a pas tant surpris. Là. Elle a dit, c'est correct, c'est beau. Mais c'est ça. Ce que je viens à dire, c'est qu'elle est vraiment un palier présentement dans ma vie quotidienne. Puis je souhaite qu'éventuellement, c'est ça, que je puisse déployer des ressources ou m'améliorer en termes d'autonomie pour qu'elle puisse... un peu délaisser son rôle de palier pour vraiment être une mère puis pas une proche aidante. Puis ça, avec les services publics actuels qui se dégradent parce que le manque de personnel, c'est vraiment pas facile. Puis
c'est
tout le monde a
très...
bien vouloir. Oui. Tout le monde a bien vouloir. Il y a personne qui veut me dire non. Là. On vit vraiment dans... d'un système fragilisé sur tous les paliers du système de santé. Mais je pense que ce serait dans l'intérêt de la société de garder les gens en situation de handicap le plus autonome possible à leur domicile.
Ouais. Oui.
On a entendu Alain, Jonathan Marchand genre proclamer cette cause-là.
Oui.
Puis je pense qu'au lieu d'être perçu comme un fardeau pour la société, je pense que les gens, ce qu'ils demandent, c'est juste d'être fonctionnel dans la société pour être intégrant.
Oui, oui. Ouais. Voilà, exactement. Puis comme dans le cas d'Alain, lui, il est à son domicile, il a des anges qui viennent
oui,
à la
ça,
maison.
Oui, ça, c'est parce qu'il s'est battu toute sa vie, parce que ça fait longtemps qu'il serait en CHSLD. T'as pas idée combien de clients que j'ai qui sont... dans vingtaine, trentaine, quarantaine qui sont en CHSLD parce que c'est tout ce qu'on a pour les personnes situation de handicap qui ont
j'aurais
mis le projet
être là, j'aurais pu être
sans
là.
Sans sa mère, il serait peut-être là ou il finirait peut-être là.
J'aurais pu être là.
Ça fait aucun sens. C'est pas là que les jeunes devraient être. T'sais, pourquoi on n'a pas au moins une institution qui n'est pas faite pour les personnes en fin de vie qui sont âgées? C'est un manque de dignité aussi à ce moment-là.
Mais totalement. Alain, OK, je l'ai compté hors d'onde. Alain, un soir d'été, a posté sur Facebook qu'il n'y avait personne, qu'il allait, il était 9 h le matin.
Ça arrive vraiment souvent qu'il n'y a personne pour le lever,
bon
pour le coucher.
Oui, mais là, non incroyable. Seulement pour le lever, le coucher, il n'y a personne qui peut venir le faire dîner.
Ouais.
Là, je m'écris, je dis, voyons, c'est une blague.
Ça arrive
non,
souvent.
Il dit, je suis seule chez moi, je ne pourrai pas manger avant ce soir, 6 h. Ouais. Voyons donc, je m'en viens. Ouais. J'étais hangover la veille, mais je me disais... Moi, je suis hangover. Lui, il est pris chez lui.
Ouais.
Il peut même pas manger.
Ouais.
J'ai fait 1h30 de route pour aller le nourrir. Tout. Ça, ça a juste aucun bon sens.
C'est
qu'il ait
incroyable.
Dû faire un appel sur les réseaux sociaux pour pouvoir manger.
Puis tu sais, un autre aspect de ça, c'est que ça demande tellement de courage de tout le
Mais
temps
oui.
demander.
Mais oui!
Puis je vais t'avouer que je trouve ça drainant. J'ai beau être avenant puis avoir une force de caractère pour... justement, venir ici, me trouver un livre, tout ça, c'est...
On
ça fait plaisir
justement...
aux gens et tout. Là.
Oui.
Mais c'est drainant de constamment demander puis avoir un système en place pour vraiment venir assister, c'est sûr, ça allégerait la chose dans ton ensemble.
Puis toi, de ton côté, Sonia, à force d'être en relation d'aide, t'es en plein cœur de cette relation-là, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que femme, en tant que personne, de toujours être portée vers l'autre comme ça, puis de faire du bien aux gens?
Ah, oh, c'est incroyable ce que ça apporte à quelqu'un qui a une nature caring. Je suis désolée, je parle tellement en anglais dans la vie, je suis tout le temps en train de dire des anglicismes. je suis tellement de personnes qui aiment donner, tu sais, de faire du bien aux gens. Moi, si les gens ont un petit esprit ou un esprit fermé en m'écoutant, qui se disent que, oh mon Dieu, c'est tout ce
c'est
que je fais.
C'est épouvantable, voyons donc, c'est dégueulasse.
C'est épouvantable ou que c'est vraiment superficiel ce que je fais. Personne ne va pouvoir m'enlever les changements concrets que je vois dans la vie des gens. À quel point j'ai marqué tellement de gens dans ma carrière. C'est incroyable de te coucher le soir puis te rendre compte à quel point tu as changé la vie de tellement de gens.
C'est gratifiant.
C'est incroyable. Donc, c'est ça que ça m'apporte. Moi, on se dit tout le temps, oh mon Dieu, t'es donc bien fine, tu pourrais tellement faire d'argent de pas prendre cette clientèle-là, de pas donner de prix ou de pas faire tellement d'exceptions sur ton horaire pour cette clientèle-là ou pour créer bénévolement de Love Able, etc. Mais ce que les gens ont pas compris, c'est ce que moi, ça m'apporte aussi. C'est pas juste de la bienveillance, là. C'est un petit peu égoïste aussi. C'est incroyable à quel point que ça me fait grandir. Toutes ces personnes-là que je rencontre m'en apprennent sur moi-même. Tu vois ma voix à casse.
Puis à force d'être porté vers l'autre comme ça, est-ce que toi, de ton côté, t'arrives tout de même aujourd'hui à cultiver des moments d'intimité, peut-être laisser place à une relation personnelle?
C'est vraiment difficile, ça. Ouais, non, c'est ça. Ce travail-là, il y a plein de côtés incroyables, d'énormes positifs, il y a des négatifs. Il y a des choses qu'il faut faire le sacrifice de. Une relation amoureuse en est probablement un. J'ai eu des preuves dans ma vie que c'est possible. Je ne sais pas à long terme comment c'est, mais clairement, les travailleuses du sexe se mettent en couple. C'est toujours compliqué pour tellement de raisons. Je pourrais vous en parler à l'infini. Puis je sais que tu aimerais ça l'entendre, Mélanie, mais
ouais.
On est serré dans le temps, j'imagine. Mais moi, personnellement, mon intimité, j'en ai fait fi pendant très longtemps. Mais il faut quand même trouver une façon de se prendre soin de soi là-dedans.
Oui, parce que sans avoir d'amoureux nécessairement, parce que là, bon, on a suivi un peu là,
c'est ça, j'en ai parlé, je me suis séparée.
T'en as parlé ouvertement.
Oui.
Mais est-ce que tu arrives quand même à t'amuser en quelque sorte?
Ben, je suis tellement fun avec mes clients, ça sonne très
en dehors des clients.
Ça fait tellement longtemps que je fais ce métier-là, j'ai eu des phases. Hein. Dans mes premières années, je trouvais que j'étais brisée sexuellement dans ma vie personnelle parce que j'arrivais pas à avoir une relation, tu sais, Tinder ou tu sais quelque chose de pas payé. J'y arrivais pas, ça me faisait sentir vraiment vide de pas être payée, ça sonne bizarre. J'étais pas capable, puis je pensais que j'avais un blocage parce qu'il y avait d'autres mondes dans mon industrie qui y arrivaient. Finalement, j'ai réussi, j'ai eu des passes, etc. En ce moment, c'est juste que j'ai jamais été une personne qui a besoin d'une relation romantique. J'en ai juste pas besoin. Après tellement longtemps dans ce métier-là, je sais que c'est pas un besoin, puis que ça se met vraiment entre moi puis ma carrière la majorité du temps. Je vais vraiment chercher cette partie-là qui est vraiment nécessaire et substantielle à la vie d'un humain, qui est cette intimité-là, avec mes réguliers. Ça me comble totalement. J'ai pas besoin d'autre chose que
mais
ça.
Mais tant que t'es comblée, dans le fond...
Exactement. Puis je le saurais si j'avais un manque.
Mais eux,
ça fait longtemps que je viens pas de commencer à le faire. Là.
T'es régulier. Est-ce que ça arrive qu'ils t'annoncent qu'ils ont des sentiments pour toi, justement, parce qu'ils voient souvent, puis toi, ben t'es axé vers eux?
Ben oui, c'est sûr. On développe, comme on disait, on développe des vraies relations avec les gens. C'est quelque chose d'authentique qui est pas juste créé, là. T'sais, on n'est pas comme sur un nuage pendant une heure, deux heures, trois heures, puis après, c'est fini. C'est sûr qu'on développe des choses incroyables pour certains clients. Des fois, ça finit bien, des fois, ça finit mal.
Parce qu'ils sont quand même avisés, là.
Ils sont très avisés, puis des fois, c'est pour ça qu'ils te le cachent, tu sais. Puis là, ben, ça fait des années qu'ils ont ces sentiments-là. Puis moi, j'ai complètement été ignorante de ça. Ils me l'ont bien caché, puis finalement, ça finit en gros problème, là, souvent. Là. Fait que oui, pour répondre à ta question, oui, il tombe en amour, puis c'est vraiment difficile à gérer.
On a quelqu'un qui est avec nous aussi, là, qu'on... Moi, je veux quand même le remercier, parce que c'est grâce à lui si Marco est avec nous ce soir. Et c'est Matt, qui est le chauffeur de Marco.
Le Uber qui vient le porter chez nous quand il vient me voir.
Bien sûr!
Bonsoir!
Donc, vous êtes quand même des amis dans la vie.
Tout à fait.
Ben oui, puis... Mais je trouvais ça le fun, vraiment, de souligner ta présence. En fait, je te remercie parce que sans toi, on n'aurait pas pu avoir Marco ce soir.
Ben, ça fait vraiment plaisir. Écoute, moi, je fais ça...
Merci, bro.
J'aime ça donner une swing à tous les efforts que Marco fait. Ça, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Puis, tu sais, je vais toujours être là pour continuer à l'aider tant que lui va continuer dans tout ça. Tu sais, moi, ça... J'aime ça participer à tout ce qu'il peut accomplir. Ça me rend fier de lui, là.
puis on rigolait tout à l'heure parce que lorsque vous prévoyez une séance ensemble, disons, on détermine, j'imagine, une heure. On détermine le nombre de...
On le dit-tu? Nous, c'est, on tourne plus autour du 3 heures quand on bosse.
3 heures?
Ouais, c'est ça.
Ça, 3 heures, 3, 4?
Première fois, 3. Deuxième, 4.
L'autre fois... OK, mais attendez. Est-ce que c'était un 3 heures qui s'est transformé en 4?
Ouais,
OK, fait que pendant ce temps-là, Marc, lui, faut qu'il trouve quelque chose à faire.
On l'appelle, puis on est comme, excusez, ça va être plus long que prévu.
Puis là, Marc, faut qu'il contacte sa blonde, dire, hey, chérie, finalement, ça s'éternise un petit peu, là.
Je suis pognée à Montréal, ils ont trop de fun.
C'est ça, pour vrai.
Ouais, très compréhensive, écoute. De toute façon, une heure de plus, une heure de moins, moi, je suis parti pour la soirée, fait que c'est bien correct. Là.
C'est-à-dire, moi, tout, je suis parti pour la soirée, là, enfin.
Puis sans lui, il pourrait pas venir, tu sais. Souvent, il y a des clients qui sont en région qui, ça fait longtemps qu'ils essayent de pouvoir venir me voir, mais ils n'ont pas de moyens de transport. Puis moi, ils habitent trop loin pour que je puisse me déplacer.
Parce que tu
là.
Te déplaces quand même
peux,
à l'occasion.
Je peux me déplacer sur l'île de Montréal. Au début, j'essayais, surtout pour les clients de mobilité réduite, d'aller en dehors de l'île ou de la rive sud. J'y arrive pas, ça me prend une journée au complet. Ça vient vraiment trop influencer mon horaire. Je peux plus me déplacer si loin.
Il y a Colin. Max, on va déborder, OK?
Allons-y. Hey, mais c'est tellement intéressant, là. On va rester ici jusqu'à demain matin.
Non, mais ça pourrait. J'ai encore plein de questions. Il y a des questions sur le live. J'ai même pas abordé tous les points que je voulais. Écoute, on va y aller avec une question du live que je trouve quand même intéressante. Okay. Est-ce qu'il y a déjà eu des couples d'handicapés qui ont demandé...
Non, en fait, j'ai eu toutes les sortes de clientèle, hommes, femmes, tout ce qu'il y a dans le milieu, handicapés, pas handicapés, de tous les âges. Il n'y a pas une caste de clients que j'ai pas eu. Les couples handicapés, même les femmes handicapées, j'ai jamais eu une cliente femme handicapée. Encore moins un couple, mais j'aimerais vraiment ça. J'ai déjà entendu des témoignages de collègues, une qui travaille en France, qui a un couple, les deux sont en situation de handicap physique. Et elle est juste là pour les aider à pouvoir se toucher ou vivre une expérience toutes les deux. Elle adapte leur situation. Elle a la mobilité qu'eux, ils n'ont pas pour pouvoir vivre leur intimité ensemble.
Oh, donc, est-ce que c'est un calinothérapeute?
Non, c'est vraiment une assistante sexuelle qui va les placer d'une certaine façon pour qu'eux, ils puissent vivre leur intimité ensemble parce qu'ils ont des limitations physiques qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir une relation sexuelle complète, même s'ils voulaient. Et les deux, les seules personnes qui ont autour d'eux, c'est leur famille. Ils ne vont pas les coller ensemble, les placer, les déshabiller. Ça serait tellement un beau projet que j'aimerais vraiment avoir.
Wow! C'est vraiment, mais vraiment hot ce que tu fais. OK, continue vraiment. Moi, je trouve ça extraordinaire. Puis, Marco, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On te souhaite l'amour.
Oui!
On te souhaite de rencontrer la bonne personne pour toi. On va tenter de te matcher.
Oui!
Puis tu pourrais éventuellement créer une famille, mais là, t'es pas là du tout, là, même que ça fait pas partie, je pense, de tes priorités. On en parlait hors d'onde.
J'en parlais hors d'onde. C'est ça, j'avais 5 ans, mais c'est ça, j'ai pas... Mettons, on parle de famille, j'ai pas la motivation instinctive d'anticiper d'avoir des enfants pour différentes raisons, surtout fonctionnelles et tout ça. Mais on peut me souhaiter de faire des belles rencontres, de faire des relations.
D'être heureux.
Voilà, soyons heureux. Donc, pour vous suivre sur les réseaux sociaux, Marco Le Roulant sur Instagram, c'est ta principale plateforme.
Marco.le.roulant.
Ou simplement Marco. Simplement Marco.
Ça, c'est le son. Non, mais faut taper ce qu'il vient de dire.
Marco.le.roulant. Yes. Ouais. Sonia Van Sacher, on te retrouve un peu partout sur toutes les plateformes, que ce soit Instagram, OnlyFans, Facebook.
Partout. Twitter, là, c'est le plus crunchy de la gang, c'est le Twitter.
Ah ouais?
C'est là que.
Parce qu'il n'y a pas de limite, je pense.
Exact,
sur Twitter
on peut
pour
mettre
le
ce qu'on veut sur Twitter. Fait que je me lâche sans censure un petit peu plus, mais clairement, le manque de censure est beaucoup plus présent sur mon OnlyFans. Avant qu'on termine, je voulais juste te dire merci toi de me donner un micro, de croire en ma cause, puis de me donner les oreilles de tes auditeurs maintenant pour la 4e fois. Ça me touche beaucoup parce que ça, c'est la mission de ma vie. Fait que merci beaucoup d'avoir l'ouverture de m'inviter.
Je me sens puissante par rapport à tout ça. On dirait,
beaucoup plus que tu penses.
De même pour moi, merci de t'intéresser à des histoires comme ça, comme la mienne, de me donner un micro pour pouvoir, c'est ça, forcément encourager, c'est ça, les gens qui vivent avec quelconque adversité, que ce soit physique, mentale, whatever. Je veux vraiment que les gens comprennent qu'ils sont leur produit de leur propre bonheur.
Wow.
Puis de mon côté ici à Québec, je vous vois pas, mais je ressens la passion qui vous unit. Vous avez de l'air d'un beau duo. Puis des fois, on se lève le matin puis on se dit, voyons, ma vie, c'est bien de la merde. Puis quand on voit des histoires comme la tienne, Marco, ben on relativise. Puis pour moi, je trouve ça vraiment inspirant. Puis la prochaine fois, je vais y penser à deux minutes avant de me dire que ma vie, c'est de la merde, vraiment. De voir quelqu'un
qui des jours, il y a des jours qu'on peut dire, hey, c'est de la merde aujourd'hui. Je dis pas qu'il faut vivre dans la fausse positivité. Il y en a des journées qu'on peut pas filer. Puis il faut les accueillir. C'est correct, ces émotions-là. J'en ai là, des journées que je suis pas tout le temps le Marco, le roulant, tout ça, tout ça. Ça m'arrive aussi d'avoir mal et tout ça. Puis c'est d'accueillir. Puis c'est faut nourrir quand ça passe, les temps qu'on est heureux. Puis c'est ça qui permet de forger la résilience.
T'es un grand sage, mon ami.
T'es hot. Ouais, vraiment. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, Matt, d'être avec nous aussi ce soir.
Avec plaisir.
Je vous souhaite une bonne route de retour. Vous retournez dans votre petit coin de pays. Puis merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Max, en direct de Québec. Merci, Alexis, qui est avec nous. Merci aux gens qui étaient présents également sur TikTok.
Et sur Instagram.
Et sur Instagram, et c'était rendez-vous demain 22h pour une autre, pour la 27e émission de La Sexploratrice.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio. Et...